On a appris hier la mort du scénariste de bande dessinée Philippe Thom. Thom avait formé dans les années 80-90 un célèbre duo avec le dessinateur Jean Ry en reprenant la série Spirou et Fantasio. Les vrais Spirou, pour moi, ceux dont j'étais contemporain, ceux qui sortaient dans mon hypermarché Carrefour et qu'on achetait à leur parution en même temps que mes boîtes de céréales préférées, les Smacks, le Kellogg's et les Kix de Nestlé, c'était ceux-là, encore plus que ceux de Franquin. Je dois d'ailleurs avouer que je préférais Spirou et Fantasio aux aventures de Tintin, et j'en avais légèrement honte, comme d'habiter en banlieue plutôt qu'à Paris. J'avais conscience de préférer un produit légèrement inférieur, mais probablement mieux adapté à un ethos esthétique propre à la classe moyenne et à l'intériorisation fanatique de son infériorité. Thom et Jean Ry jouaient, comme le Laval d'alors, ma ville de naissance, en deuxième division. C'était par ailleurs le duo responsable de l'horrible série du Petit Spirou, qu'un étrange puritanisme me faisait détester. Il y était essentiellement question des émois sexuels d'un enfant troublé par les seins énormes de sa maîtresse. Et cela me mettait mal à l'aise, à moins que cela me ramenât, expérience humiliante, à ce cours d'éducation musicale en CE1, où j'avais été le seul garçon de ma classe à ne pas remarquer que l'intervenante n'avait pas de soutien-gorge. Je n'avais pas vu ses seins. Je ne me rappelle encore que de l'aspect étincelant des triangles qu'elle avait apporté. Un ami a récemment sauvé cette part d'enfance en me démontrant, je n'y avais bizarrement jamais pensé, que les Spirou de Franquin étaient de fascinantes relectures des Tintins. Tout y était, ou presque, en plus fantasque, en moins hiératique. Champignac, c'était Moulinsart, l'inventeur qui vivait là, c'était Tournesol, et Spirou, c'était Tintin remis en vie par une étincelle pop. Mais c'est en lisant les réactions à la mort de Thom que tout est définitivement revenu dans l'ordre. Je ne m'étais pas trompé alors, ces 14 albums vaguement maudits des années 80-90, d'autres que moi les considéraient eux aussi comme des classiques. Tout ce que je sais du futur, c'est dans Virus et dans Qui arrêtera Cyanure que je l'ai appris. Album qui m'avait fait entrer dans l'énorme usine IBM qui longeait mon village de l'autre côté de l'autoroute A6. Le seul New York que je connaisse, c'est encore aujourd'hui celui de Spirou à New York, marqué par la rivalité fantasmatique entre mafia italienne et chinoise. La chute du mur de Berlin ne m'a pas plus marqué que l'apparition, l'année suivante, de cette aventure folle qui jetait Spirou et Fantasio dans les souterrains du Kremlin à la recherche de la momie disparue de Lénine. Et au gag du sparadrap de l'affaire Tournesol, j'ai toujours secrètement préféré le gag de l'écrou dans la frousse aux trousses, écrou d'un camion militaire qui menaçait à tout moment de céder et de faire périr nos héros en mission. Il allait en réalité leur arriver une mésaventure encore pire. Ils allaient finir au fond du gouffre sans issue de l'album suivant, La Vallée des Bannis. J'avais 11 ans quand j'ai lu cet album. Je n'étais donc plus tout à fait un enfant, mais je n'ai pas souvenir d'avoir jamais eu autant peur en lisant une BD. C'était le récit d'horreur parfait. La Vallée serait le tombeau de mes héros d'enfance, l'album définitif, la case de fin aux parois escarpées et aux fantômes omniprésents, à commencer par le plus terrifiant et inattendu de tous, Fantasio lui-même, le personnage que secrètement je préférais, malgré son inlassable orgueil de second, et qui se retrouvait soudain frappé de folie meurtrière, à pourchasser son meilleur ami en appelant à la création d'un magazine qui porterait enfin son nom, Fantasio Magazine. Ce Fantasio méchant était encore plus réussi que le Zantavio de Franquin. Tout a été dit sur les années 80, sur la postmodernité, sur le maniérisme de la BD d'alors, mais Thom est celui qui réussit, dans ce chef-d'œuvre inattendu et au cœur d'une époque qui n'en attendait pas tant, à dépasser l'injonction contradictoire qui lui enjoignait de maintenir une distance ironique vis-à-vis de son récit, tout en lui conservant l'efficacité narrative attendue d'une série mainstream. Ma peur était vraie, comme était réelle, soudain, la colère illégitime d'un héros de papier, méchant à très mauvais escient, mais à juste titre, car j'avais toujours été de son côté, et j'aurais été incontestablement l'un des premiers lecteurs de Fantasio Magazine, à moins que celui-ci ait existé et que le grand Franquin, son fondateur, l'ait fait passer pour les anodines aventures de Gaston.